Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce magazine dominical, magazine qui depuis 2 semaines a adopté, vous le savez, une formule transitoire avant le retour à la normale dans ce déconfinement. Nous accueillons désormais 2 invités et cette semaine nous allons parler histoire avec d'abord Dominique Khalifa qui nous propose un livre passionnant auquel ont participé de nombreux historiens. Il s'intitule « Les noms d'époque, de restauration à années de plomb », un livre publié chez Gallimard. Pourquoi donne-t-on des noms à des périodes de l'histoire, Moyen-Âge, Renaissance, Belle Époque, par exemple? Comment cela se produit-il? Nous verrons cela dans un instant. Et puis, dans la seconde partie de ce numéro d'idées, nous parlerons de Philippe Séguin, homme politique français, disparu il y a 10 ans, avec un autre invité, Arnaud Tessier, qui publie une biographie de l'ancien président de l'Assemblée nationale dont on dit qu'il est passé à côté d'un destin national. Voici donc un nouveau numéro d'idées, un magazine que vous pouvez retrouver, podcaster sur notre site www.rfi.fr, sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez vous y abonner. Bonjour Dominique Khalifa.
Bonjour.
Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes historien, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes historien des imaginaires contemporains et vous avez publié chez Fayard en 2017, il y a peu donc, une véritable histoire de la Belle Époque. Voilà déjà un nom donné à une période historique, la Belle Époque.
Absolument, et pas des moindres, hein, puisque c'est un nom qui finalement sonne relativement bien et qui est compréhensible par un peu tout le monde, en France comme à l'étranger d'ailleurs. Et vous avez raison effectivement de commencer par ça, parce que tout est venu de là, d'une certaine manière, en m'interrogeant sur qu'est-ce que c'est que la Belle Époque, pourquoi l'a-t-on nommée ainsi, quand, avec quelles intentions, etc. J'en suis arrivé à me poser des questions sur l'ensemble de ces noms d'époque, de ce que les linguistes appellent en termes savants les chrononymes, un nom du temps, et essayer d'élucider la façon dont nos sociétés, dont les sociétés, effectivement, dénomment les portions de temps qu'elles identifient, auxquelles elles veulent donner une véritable identité.
C'est un livre absolument passionnant, avec de multiples études, de multiples contributions sur l'histoire de France et aussi sur l'histoire d'autres pays européens. Dominique Khalifa, c'est assez mystérieux cette façon de donner des noms à l'histoire. On ne sait pas comment exactement ça se produit. À chaque fois, c'est différent.
C'est différent à chaque fois. Et puis, il faut aussi dire qu'on n'y avait pas beaucoup réfléchi jusqu'à présent. Vous savez, le temps est une notion qu'il faut évidemment travailler pour lui donner de l'épaisseur d'analyse. On sait très bien, depuis belle lurette, que les historiens périodisent, c'est-à-dire découpent le temps en séquences. Mais on ne se contente pas de périodiser, on ne se contente pas de découper le temps en tranches, on lui donne des noms aussi. Alors si ces choses-là avaient été un peu travaillé pour les périodes anciennes. Par exemple, Marc Bloch avait consacré de très belles pages à la notion de Moyen-Âge, qui est un nom du temps évident, où Lucien Febvre avait travaillé sur la façon dont Michelet avait produit le concept de Renaissance, par exemple. Mais pour l'époque contemporaine, pour les deux derniers siècles, on n'avait pas, ou presque pas, réfléchi à ces questions-là et à cette opération, vous avez raison, qui est quand même tout à fait singulière, par lesquelles, on essaiera peut-être de le dire tout à l'heure, mais les sociétés, on va dire, pour l'instant, pour rester flou, donnent un nom aux périodes temporelles. Et je dois dire que c'est quand même une opération fondamentale, parce que si on ne donne pas, si on ne dénomme pas les séquences temporelles, je crois qu'on ne parvient pas à en capter, à en saisir la singularité, l'identité, la charge propre. On a besoin de cela, il me semble, mais en même temps, en nommant, bien sûr, c'est jamais une opération neutre et on comprend bien effectivement combien la dénomination est également porteuse d'intentions, d'enjeux, d'idéologies, de tensions, etc., etc.
Ce qui est intéressant, Dominique Khalifa, c'est que si on donne des noms d'époque à des périodes historiques, c'est que les historiens découpent en quelque sorte, vous avez utilisé l'expression, l'histoire en tranches, vous citez aussi Jacques Le Goff sur ces sujets, ce qui est en soi déjà un débat chez les historiens, ce découpage.
Oui, c'est un débat, si vous voulez, bien sûr, car on sait très bien que c'est forcément, c'est toujours un coup de force. C'est toujours un coup de force parce que, effectivement, bah, la nature du temps, nous en sommes tous les témoins, la nature du temps est évidemment d'être continu. Donc, à partir du moment où on va effectivement périodiser, on va produire un gauchissement de la réalité. Cela dit, on en a besoin. Parce que c'est aussi comme cela que l'on peut comprendre, que l'on peut tenter de faire surgir les caractères, les traits de moments singuliers, et toutes les périodes ne se ressemblent pas. C'est vrai qu'on s'est un peu étripé il y a quelques années sur les périodisations, mais je crois que maintenant, le débat est plus clair là-dessus. On sait évidemment que c'est une convention, que c'est une opération, hein, la belle formule de Michel de Certeau, l'opération historiographique, c'est une opération, donc c'est pas la réalité, le temps lui échappe assez, mais on en a pris notre parti. En revanche, sur la dénomination, c'est encore quelque chose de lourd, parce que vous savez, ce qu'on entend la plupart du temps, à juste titre d'ailleurs, c'est des historiens qui disent « Ah ben oui, mais la belle époque, elle n'était pas belle pour tout le monde, les années folles, elles n'étaient pas si folles que ça, les Trente Glorieuses, c'était pas aussi glorieux que ça », ce qui est vrai, bien sûr, hein, ce que nous savons, mais ce qui n'empêche qu'il nous faut aussi comprendre, et c'est tout l'enjeu de l'équipe d'historiens que j'ai réunie dans ce livre, qu'il nous faut aussi comprendre comment, pourquoi, à quel moment et avec quel cahier des charges, effectivement, nous avons donné des noms aux périodes. L'objectif n'est pas de s'en débarrasser, si vous voulez, parce que on peut tout à fait dire « Ah ben, la belle époque, ça n'existe pas, les années folles, ça n'existe pas ». On n'est pas les maîtres du monde. On sait très bien que les gens vont continuer à les utiliser parce que ce sont des faits de langage qui appartiennent à nos sociétés. Simplement, la seule chose que ce livre avait comme objectif, c'est de dire « Il faut les utiliser en connaissance de cause, en connaissant le processus par lequel ces dénominations ont été mises en œuvre. »
Ce qui est assez intéressant, c'est par exemple dans cette notion de belle époque que vous connaissez parfaitement, Dominique Khalifa, il y a beaucoup de nostalgie, il y a le regard porté sur une époque des décennies plus tard.
Oui, alors il y a plusieurs sortes de chrononymes. Le plus grand nombre, vous avez raison, le plus grand nombre, c'est comme belle époque. Ce sont des dénominations postérieures, voire même souvent très largement postérieures, et donc qui sont nécessairement rétrospectives. Et rétrospectivement, elles portent forcément un regard nostalgique sur le temps que nous avons perdu. Le cas de la Belle Époque est terrible. En fait, l'expression « Belle Époque » surgit à l'extrême fin des années 1930 et n'est vraiment popularisée que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire, vous voyez, plus de 20 ans. Après, et donc effectivement, on comprend bien que quand les contemporains ont parlé de belle époque en 1940 ou en 1941 et 1942, c'était avec un regard rempli effectivement d'une nostalgie sur l'année de leurs 20 ans, cette période d'avant-guerre, avant deux guerres même, et dont ils conservaient le souvenir ému. La plupart des chrononymes sont ainsi des reconstructions postérieures qui portent bien sûr avec elles ce que nous appelons la téléologie, hein, c'est-à-dire qu'elles font semblant de penser qu'on connaît qu'à l'époque on savait déjà à la fin de l'histoire, évidemment on les connaissait pas. Cela dit, il y a quelques chrononymes qui sont produits par les sociétés elles-mêmes. Par exemple, la notion de fin de siècle, hein, qu'on a utilisé dès les années 1885-90 pour parler de la fin du 19e siècle, celle-là a été forgée par les contemporains. Et puis, par exemple, en Grande-Bretagne, la notion de âge victorien, ère victorienne, c'est aussi une notion qui a été utilisée par les contemporains. Donc, je pense qu'il faut faire attention entre les différents types de chrononymes, entre ceux qui sont produits par la société qui en est contemporaine, et puis le plus grand nombre qui est postérieur et qui, là, est complètement gonflé, chargé d'imaginaire, de nostalgie, de mélancolie, d'un regard rétrospectif.
En tout cas, ces noms sont importants, Dominique Khalifa, car vous écrivez dans la préface de ce livre passionnant, je le répète, « Autour d'eux se construit un feuilleté sémantique, un feuilleté mémoriel qui facilite l'emprise des grands récits collectifs ».
Ben oui, hein, si vous voulez, nous avons besoin effectivement parfois de raccourcis, les sociétés, l'école, la culture sous toutes ses formes doit effectivement aussi penser le rapport au passé sous des formes maîtrisables. Et ces noms qui correspondent d'ailleurs aussi à des périodisations, ces noms sont souvent porteurs de toute une série de parfois d'une théâtralité, parfois d'une dramaturgie, parfois... Alors, revenons sur une minute sur Belle Époque, si vous voulez bien. On voit bien ce qui est en jeu là-dedans. C'est que si on utilise cette expression en la dotant de tous ses traits, c'est aussi parce qu'on sait qu'elle est finie, qu'elle va finir tragiquement. Autrement, on ne dirait pas ça. Prenons un autre exemple assez étonnant et un peu paradoxal, qui est la notion d'entre-deux-guerres. La notion d'entre-deux-guerres, c'est une notion qui, surtout pour parler de la période 1919-1939, c'est une notion qui est très, très, très compliquée, qui est fausse d'une certaine manière, effectivement, parce qu'elle sous-entend d'une certaine manière que les contemporains auraient dû ou auraient pu être conscients, en fait, qu'ils vivaient dans une période d'entre-deux-guerres, ce qui évidemment n'était pas le cas. Elle est dangereuse d'une certaine manière parce qu'elle fait peser une certaine culpabilité sur les hommes et les femmes des années 30. Ah, vous n'avez pas vu, vous étiez myope. Mais en même temps, comment faire effectivement pour ne pas l'utiliser à partir du moment, d'ailleurs l'expression a surgi très très vite, dès 1939, hein, dès la déclaration de guerre de septembre 39, comment faire effectivement, parce que nous avons besoin, les sociétés ont besoin effectivement de penser leur rapport au passé, leur rapport au temps, donc leur rapport à l'histoire, au travers effectivement de catégories identifiables. Les noms, effectivement, permettent de telles catégorisations.
Idée, la parole à ceux qui pensent le monde. Pierre-Edouard Deldic.
Suite de ce numéro d'idées, nous parlons avec Dominique Khalifa, notre premier invité, des noms d'époque, des noms donnés à des périodes de l'histoire. Vous l'avez dit, Dominique Khalifa, en général, c'est la société, c'est un collectif qui donne ses noms, mais il arrive aussi, et vous le notez dans le livre, ça fait l'objet d'un article, qu'un auteur donne à une époque un nom, ou un nom à une époque. C'est le fameux nom, par exemple, des 30 glorieuses données par un auteur connu à l'époque, enfin, qui était même très connu, Jean Forestier, qui qualifie l'après Deuxième Guerre mondiale, les années 50, 60, 70.
Alors, en 1979, Jean Forestier, qui était un haut fonctionnaire, économiste, statisticien célèbre à l'époque, a publié ce livre en 79 pour caractériser, selon lui, les 30 années qui succèdent à la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, pour aller vite, entre fin de la Seconde Guerre mondiale et choc pétrolier, 45-75, parce qu'il y voyait une période de 30 années, en tout cas pour le monde occidental, de croissance, de prospérité, d'installation dans la consommation. Et il est clair, effectivement, que ce terme a fait souche, à tout le moins en France, hein, parce que c'est une expression qui n'est pas du tout utilisée, voire pas compréhensible dans les autres langues, pour caractériser cette période, même si, bien sûr, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que ce n'était pas aussi vrai que ça, que la fin des années 40 et le début des années 50, ce n'est pas une période de croissance et de prospérité aussi forte que ça. Pensez au rationnement qui dure jusqu'en 49, pensez à l'abbé Pierre en 54, etc. etc. Mais effectivement, on est là face à une création d'un individu, d'un intellectuel qui propose, peut-être que Forestier n'avait pas la préscience de la façon dont son expression allait faire souche, mais néanmoins ça a marché. On pourrait trouver d'autres exemples. Les Américains, par exemple, la société américaine utilise l'expression « gilded age », âge doré en quelque sorte, ou âge plaqué or, ou âge du toc, pour caractériser les années, la fin du 19e siècle, les années 1870-1890 à peu près. Et là encore, c'est au romancier Mark Twain qui publie un roman, il est co-auteur d'un roman qui s'appelle « The Gilded Age », portrait d'une époque, qui là aussi est contemporaine. Donc on peut trouver, en cherchant bien, on peut trouver un certain nombre de créations comme ça. Mais il est vrai que, primo, lorsqu'il y a des créations comme ça, elles vont changer de sens aussi progressivement, c'est-à-dire que le Gilded Age de Mark Twain, c'est pas vraiment le Gilded Age des années 1920 ni celui d'aujourd'hui. Hein. Les expressions sont elles-mêmes embarquées dans le train de l'histoire. Et puis c'est quand même moins fréquent. La plupart des chrononymes procèdent, on ne sait pas trop bien d'où on procède, de l'ère du temps, de suggestions, de journalistes, de consensus. Et parfois dans la confusion. Prenons par exemple la Seconde Guerre mondiale en France. Le très bel article de Laurent Douzou dans le livre montre combien finalement il y a, on peut parler aussi bien de « année noire », ce qu'il fait, que de « l'occupation », que de La France de Vichy ou de Année sombre. Et à chaque fois, bien sûr, ce sont des facettes différentes de la période qui sont mises en avant. Et il y a d'une certaine manière aussi des combats, des tensions, des rivalités interprétatives qui se mettent en œuvre dans les noms que nous donnons aux périodes.
Vous consacrez dans ce livre un long article au Printemps des Peuples qu'a connu l'Europe au milieu du 19e siècle, en 1848. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas s'il y a un rapport direct, en tout cas il y avait une ressemblance assez stupéfiante. Ce Printemps des Peuples a ressurgi en quelque sorte en 2011 lorsqu'il y a eu les Printemps arabes.
Absolument. Alors, la chose qui est très très étonnante, c'est qu'en 1848, au moment où ce que nous appelons nous le printemps des peuples a explosé, personne n'a utilisé cette expression pour le signaler. L'expression en fait est née beaucoup plus tard, un siècle après, en 1948, au moment où dans les pays d'Europe de l'Est, on était en train de vivre exactement le contraire, une espèce d'automne des peuples, d'hiver des peuples, c'est-à-dire au moment où ces sociétés passaient dans la chape de plomb du stalinisme. Et lorsque l'historien François Fesco a publié ce livre-là en 1948, il pensait à 1848, mais il pensait aussi à son moment de 1948 où l'Europe connaissait quelque chose de beaucoup plus grave. Mais vous avez complètement raison, l'expression « printemps de » est demeurée. On a parlé effectivement du printemps arabe en 2011 et on continue à en parler. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ce grand moment de révolte estudiantine que le Québec a connu en 2015-2016, qu'on a appelé aussi le printemps d'érable, par exemple, pour parler de ce mouvement. Donc aujourd'hui, le printemps, c'est presque devenu d'une certaine manière une métaphore pour évoquer les révolutions et les mouvements sociaux.
Alors, dans la conclusion du livre, Dominique Khalifa, vous interrogez sur l'époque d'aujourd'hui et vous demandez si on n'est pas entré dans l'ère des post-modernisme, post-soviétisme, etc., etc. Et vous dites, vous écrivez, ce n'est qu'en quittant une chose, finalement, que nous la nommons.
Oui, il me semble. Alors évidemment, je suis pas ni un sociologue ni un devin, mais je pouvais pas quitter ce livre sans me poser la question. Est-ce que nous vivons une époque? Je signale d'ailleurs qu'il y a 15 jours, une économiste du FMI a proposé d'appeler le moment que nous vivons aujourd'hui le grand confinement, the great lockdown en anglais. Je ne sais pas si ça me marquera ou pas. Mais effectivement, je me suis posé la question de comment on appelle notre époque. Et il est vrai que s'il y a consensus pour dire que nous sommes sortis du 20e siècle, ça je pense que tout le monde en est convaincu, même si la date de sortie du 20e siècle n'est pas aussi évidente que ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de nom, qu'il n'y a pas eu de chrononyme précis pour caractériser la période que nous vivons. Et à vrai dire, je me suis rendu compte en réfléchissant à tout ça et en étudiant un petit peu les discours, que peut-être le terme le plus récurrent, c'est pas un mot d'ailleurs, c'est un préfixe, c'est le préfixe post. Depuis une trentaine d'années, on le voit se multiplier, proliférer partout. On parle de post-structuralisme, post-modernisme, post-industrie, post-démocratie. On a même évidemment, il y a quelques années, enfin il y a pas si longtemps, parlé de post-vérité, etc., etc., etc. Comme si finalement, on voyait bien qu'on était dans quelque chose de parti vers quelque chose de nouveau. On voyait bien d'où l'on venait, d'où l'on partait, mais comme si on était incapable, effectivement, de nommer, bien sûr, mais même plus encore fondamentalement, de penser ou de prévoir ou d'imaginer l'horizon vers lequel on va, comme si, d'une certaine manière, l'avenir était nébuleux, incertain, effacé face à nous. C'est très inquiétant, d'une certaine manière.
Alors, terminons avec l'époque que nous vivons en ce moment, Dominique Khalifa. Cette époque de confinement, vous faisiez référence à cette personne du FMI qui essaie de nommer cette époque. Elle est tellement frappante qu'elle aura forcément un nom. L'ère du confinement, l'âge du virus, elle aura forcément un nom, non ? Et assez vite, qu'en pensez-vous ?
Elle aura sans doute un nom, bien sûr. Je ne pense pas que la maladie puisse lui donner un nom, parce que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, aucune des grandes épidémies, pas plus la peste que le choléra, que la grippe espagnole, n'ont pu donner leur nom. Parce que pour donner un nom à une société, il faut que ça engage plus que ça. Bien sûr, l'épidémie, c'est fondamental, c'est grave, mais il faut que ça engage avec elle, que ça entraîne avec elle la société, la culture, la politique, etc. etc. Alors peut-être comme le prévoit Geeta Gopinath, l'économiste chef du FMI, qui est d'ailleurs une collègue de Harvard, peut-être le grand confinement, on ne sait pas. Je pense qu'il faut rester prudent. Je pense que ces choses-là, enfin en tout cas c'est l'expérience qu'en ont tiré les 14 auteurs qui ont travaillé avec moi sur ce livre, l'expérience de ces noms ne se décrète pas. Hein. Il faut en prendre humblement la mesure, mais peut-être effectivement que le Great Lockdown ou quelque chose comme ça sera demain ce que nous lirons dans les livres d'histoire, peut-être pas aussi, peut-être que nous allons rebondir autrement.
Merci Dominique Khalifa, le livre absolument passionnant, je le répète, que vous avez dirigé s'intitule « Les noms d'époque de restauration à années de plomb ». Il est publié chez Gallimard dans la collection « La bibliothèque des histoires ». Merci.
Merci à vous.
De ce numéro d'idées, nous allons continuer à parler d'histoire, histoire très contemporaine. Nous allons en effet parler de Philippe Séguin, l'homme politique français disparu en 2010, il y a 10 ans, député maire d'Épinal, ministre, président de l'Assemblée nationale, avec Arnaud Tessier. Bonjour Arnaud Tessier.
Bonjour.
Vous êtes historien et haut fonctionnaire, vous avez écrit une biographie de ce personnage, biographie rééditée en poche chez Perrin, sous-titre « Le remords de la droite ». Pour quelle raison ce sous-titre, Arnaud Tessier, « Le remords de la droite » ?
Parce que c'était le fruit d'un constat que j'avais fait au moment de la mort de Philippe Séguin. J'avais été très frappé par le mouvement d'émotion, très sincère d'ailleurs, qu'il y avait eu dans les rangs de sa famille politique d'origine. Et en même temps, on pouvait percevoir, si on avait l'esprit un peu acéré, une certaine forme de soulagement, qui n'empêche pas les sentiments, comme dirait l'autre, mais parce que c'était un personnage qui tenait beaucoup de place et qui était un peu la mauvaise conscience de beaucoup de gens à droite. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu l'idée qui transparaissait, notamment à travers des discours qui ont été faits à cette époque, ou des articles par des responsabilités politiques, l'idée qu'il y avait un destin là qui n'avait pas été suffisamment accompli et que certaines responsabilités y étaient peut-être pour quelque chose. On n'avait peut-être pas laissé ce destin pleinement s'accomplir.
Et vous pensez par exemple, on y reviendra dans un instant, mais à Jacques Chirac par exemple?
Ah, Jacques Chirac avait-il du remords? Je ne sais pas. Je pense que Jacques Chirac a toujours voulu éviter à tout prix de se retrouver dans une situation de pouvoir partager avec Philippe Séguin. Non pas qu'entre eux il y eut une quelconque hostilité, c'était deux hommes qui par certains côtés s'appréciaient humainement, mais à la fois le caractère très entier de Philippe Séguin faisait peur à Jacques Chirac et à son entourage, il faut bien le dire. Et par ailleurs, ils avaient une discordance profonde, pour utiliser un terme gaullien, une discordance profonde sur les institutions et sur la façon de conduire le régime vers l'avenir.
On a l'impression, ou plutôt la confirmation, Arnaud Tessier, quand on lit votre livre, que Philippe Séguin était un homme de conviction, ce qui n'était pas vraiment le cas de Jacques Chirac.
Oh, je ne vais pas juger Jacques Chirac, mais tout le monde sait, enfin, ça a été dit même par des gens qui l'ont beaucoup apprécié humainement, que c'était quand même quelqu'un qui s'est montré, à partir d'un certain moment de sa carrière, assez opportuniste et surtout capable de changer effectivement de braquet, ne serait-ce d'ailleurs que par la pratique répétée des cohabitations, que Philippe Séguin soulignait le caractère à la fois émollient et destructeur pour le régime. Donc, Philippe Séguin, en tout cas, était, oui, lui, un homme qui avait des idées extrêmement stables et fermes, des convictions, on peut le dire. C'était un homme d'idées et de convictions. Pour lui, la réflexion, la pensée, c'était, et le discours, ce n'était pas des choses anodines. Ce qu'on disait, ce qu'on pensait, ce n'était pas des choses anodines. C'était vraiment un homme de la Ve République dans sa pureté originelle et non un homme de la IVe, telle qu'elle s'est réintroduite au fil du temps, en réalité, dans la vie politique française, à institutions inchangées.
Farouche défenseur de l'héritage gaulliste, on va y revenir dans un instant, Arnaud Tessier. On ne peut pas vraiment comprendre Philippe Séguin sans rappeler qu'il est né et a vécu les premières années de sa vie en Tunisie.
Oui, tout à fait. Il en a attiré, il aimait énormément la Tunisie, qu'il considérait comme sa seconde patrie, mais d'où il avait appris aussi enfant à aimer la France, qu'il découvrait à travers les livres, à travers ce que lui racontaient ses grands-parents, sa famille. Et donc, il avait un amour profond de la France, ce qui allait de pair avec un attachement profond pour la terre natale, sa terre natale qui était la Tunisie. Et il disait lui-même que ça lui donnait une vision de la France qui était toujours à double dimension, c'est-à-dire à la fois la France dans sa vérité continentale, la France, la nation française dans son côté charnel, avec ses souffrances et son histoire, et puis la plus grande France, c'est-à-dire une France qui est aussi une France avec un pouvoir d'incarnation sur le plan mondial. Et donc, je crois que chez lui, quand il disait que la France était à la fois quelque chose de charnel et d'universel, c'était quelque chose qui n'était pas une figure de style, comme ça dit souvent, mais c'était quelque chose qu'il ressentait par cet attachement profond à la fois à la Tunisie et à son pays.
Alors, vous parlez de ses études à Aix-en-Provence, études d'histoire, études de sciences politiques, puis l'ENA à une période importante, 67-68. Il est passé d'ailleurs à côté de 68, il a vécu ça de très loin.
Oui, il était en stage aux Antipodes, en Polynésie, et donc à une époque où les moyens de communication n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui. Et donc, en fait, il n'a pratiquement rien su de ce qui se passait vraiment au jour le jour. Et il est rentré quand tout était fini, avec le sentiment que finalement, qui d'ailleurs s'est imposé un petit peu au fil du temps, que tout ça n'était qu'une mauvaise plaisanterie de jeunes bourgeois en colère et insatisfaits. Et donc il n'a pas vu quelque chose qui a été quand même très frappant, qui a beaucoup frappé De Gaulle à l'époque, c'est le vacillement de l'État et de la société. Ça, donc je pense qu'il en a gardé une vision de la Ve République plus optimiste pendant longtemps. Il pensait que les institutions étaient vraiment très puissantes et il a moins perçu que ne l'ont perçu les contemporains en 68 les fragilités de la société française et du système français. Ensuite, il a remis ses propres pendules à l'heure et il a compris que tout cela était en effet bien fragile.
Et d'ailleurs, vous le citez à propos de 68, il disait « Quel bilan que celui de 68, ils étaient partis guerroyer contre la société de consommation. Le capitalisme a compris qu'il lui suffirait d'adapter ses produits. Aujourd'hui, à quelques rares exceptions, ce sont les 68ards qui font tourner la machine et qui en sont les gardiens dévoués. »
Tout à c'est fait, clair. Oui, on trouve d'ailleurs, ça a été dit très bien aussi plus tard par Bernard Maris, c'est tout à fait ça, oui, c'est, il y a eu, comment dire, quand on voit le parcours de certaines personnalités qui aujourd'hui professent un libéralisme de combat ou un néolibéralisme, on est quelquefois assez surpris, et puis pas tant surpris que ça, il y a quelque chose qui, d'assez, il y a une constante, oui, en effet.
Alors au début des années, enfin dans les années 70, début des années 70, il a, Philippe Séguin, vu comment s'exerçait le pouvoir, puisqu'il a été conseiller à l'Élysée, sous la direction d'ailleurs d'Édouard Balladur, au temps de la présidence de Georges Pompidou.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'il a vu comment s'est mis en place le fonctionnement du système de pouvoir de la Ve, après De Gaulle, juste après De Gaulle, avec la transition pompidolienne, et à une certaine accentuation du présidentialisme qui n'était pas si nette paradoxalement sous De Gaulle. Sous De Gaulle, finalement, les grands équilibres constitutionnels étaient d'une certaine manière plus respectés par De Gaulle qu'ils ne l'ont été par la suite. Il a vu également à cette occasion, il a croisé quelques-unes des figures politiques qu'il allait retrouver plus tard dans sa carrière, effectivement, Édouard Balladur, mais aussi Jacques Chirac, qu'il croise plus, qui fait plus que croiser, parce que à cette occasion, Jacques Chirac est ministre et Philippe Séguin s'occupe de dossiers, l'agriculture en particulier, dont quand Jacques Chirac est en charge. Donc, ça a été véritablement pour lui une ouverture exceptionnelle sur la politique, mais une politique qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce que c'est une politique qui est encore, dans l'imprégnation de la période gaullienne.
Alors, avec un début de combat politique dans les Vosges, à Épinal, député en 1978, puis maire d'Épinal en 1983, drôle d'endroit pour une carrière politique pour un homme né en Tunisie, Arnaud Tessier.
Oui, je crois qu'il aurait préféré se présenter dans le Var, parce qu'il avait vraiment... C'était un homme capable de combattre très, 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 très fort. Mais finalement, il était parachuté dans les Vosges. Et ce n'était pas un parachutage considéré comme facile, parce que c'était le moment où le département des Vosges traversait une crise systémique avec la faillite de Boussac et puis la faillite de tout un système de société qui allait avec l'industrie textile. Et il a réussi à gagner les législatives, puis les municipales, dans un environnement qui était extrêmement difficile et dans un contexte social très difficile, parce que il a tenu à un discours social sincère, parce qu'il était déjà à cette époque dans une optique très très gaulliste sociale, et aussi à un discours de vérité. Ça a beaucoup frappé à l'époque, notamment lorsqu'il a rencontré les ouvriers, les représentants syndicaux. C'est quelqu'un qui disait les choses telles qu'elles étaient. Il disait que les choses allaient être difficiles, qu'il allait falloir faire des sacrifices. Mais en même temps, ça allait avec un volontarisme pour sauver les emplois et pour assurer la reconversion du département. Donc c'est là qu'il a vraiment fait la preuve, alors qu'il avait 35 ans, de qualité d'expression, de raisonnement et de conviction qu'il a gardé par la suite. Hein, parce que finalement, ça aurait pu être le parachutage du jeune énarque de 35 ans. Et ben, c'était le parachutage de quelqu'un qui tout de suite a su parler au peuple, entre guillemets, c'est-à-dire véritablement la population vosgienne qui était très éprouvée à ce moment-là.
Alors ensuite, il a été ministre à une époque délicate, 1986-1988, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, un grand, grand ministère où là, son image de gaulliste de gauche s'est en quelque sorte exprimée aussi.
Alors, je dirais moins gaulliste de gauche que gaulliste social. Il récusait un peu l'idée de gaulliste de gauche ou de gaulliste de droite, parce qu'il considérait le gaullisme n'était ni de droite ni de gauche, qu'il était au-dessus, enfin, ou qu'il était, il pouvait être de droite et de gauche, mais en tout cas que c'était surtout une façon de concevoir les problèmes nationaux au-dessus. Mais oui, il était déjà considéré, il avait déjà publié des livres, il avait fait des discours importants à l'Assemblée nationale, notamment au moment des lois Auroux, pour rappeler que le gaullisme n'était pas l'ennemi des travailleurs, au contraire, et il avait rappelé les idées de De Gaulle sur la participation, donc il avait cette marque, je pense qu'il considérait qu'en 86, on lui avait donné un ministère absolument monstrueux, parce qu'il avait cette image, et peut-être aussi dans l'espoir qu'il cautionnerait un certain nombre de choses. En fait, ce ministère était, la cohabitation était très courte, puisque il devait y avoir l'élection présidentielle en 1988. C'est la raison pour laquelle Philippe Séguin considérait que c'était une aberration que de vouloir faire des réformes économiques et sociales de grande ampleur en 2 ans, que François Mitterrand, président de cohabitation, profiterait pour affaiblir le camp adverse et pour remporter les présidentielles. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais il a quand même joué le jeu, c'est-à-dire que pendant 2 ans, il a pris en charge cet énorme ministère. Il a assumé certaines des mesures d'influence libérale, comme la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, mais en les assortissant de garanties sérieuses. Et puis, il a essayé de préserver notamment le système français, le système de protection sociale qui faisait selon lui l'originalité et la force de la France depuis 1945. Donc il a été un ministre à la fois loyal mais en même temps très fidèle à ses convictions et en évitant que on jette le bébé avec l'eau du bain en quelque sorte à l'occasion d'une expérience politique qui ne pouvait être que courte et périlleuse.
Alors Arnaud Tessier, dans cette biographie, naturellement, vous retracez son itinéraire politique, président de l'Assemblée nationale en 1993, président du RPR ensuite, candidat à la mairie de Paris, et puis premier président de la Cour des comptes. Mais la grande affaire, ce qui restera peut-être de Philippe Séguin, c'est ses positions sur l'Europe, non ? Et sa critique du traité de Maastricht, signé, il faut le rappeler, le 7 février 1992.
Oui, il s'est identifié à cette cause qui a été d'ailleurs une cause qui n'était pas seulement l'Europe, mais c'était une position qui qu'il prenait, et c'était la volonté qu'il exprimait, qu'il y ait un véritable débat sur la ratification du traité de Maastricht, qu'il y ait un référendum, que ce ne soit pas ratifié en catimini par les assemblées et par les partis politiques, parce qu'il considérait que derrière le traité de Maastricht, qui selon lui engageait une évolution irréversible sur le plan européen, il y avait aussi tous les enjeux de la démocratie, de la souveraineté nationale, et il considérait que on ne pouvait pas engager la France dans ce traité sans un assentiment conscient et réfléchi du peuple français. Je crois que c'est très important de le comprendre. Ce n'était pas seulement l'Europe qui était en cause dans sa pensée, c'était aussi le sens de la démocratie, de la souveraineté nationale et la façon dont on associait ou non le peuple à des décisions fondamentales et notamment à des décisions qui concernaient son avenir européen. C'est important de le dire parce qu'après, il était étiqueté comme anti-européen, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Comme de Gaulle, d'ailleurs, il avait une certaine conception de l'Europe qui était très politique. Et par ailleurs, on a fini par négliger les avertissements qu'il a articulés à ce moment-là. C'était de dire, si on fait l'Europe sans le peuple contre lui, eh bien, ça se retournera contre l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé. Le traité de Maastricht a bien été ratifié par référendum, il y a eu un vrai débat national. Le non a été très près de l'emporter. Le oui l'a emporté de peu parce que François Mitterrand a mis tout son poids dans la balance en termes de communication et de participation, d'intervention personnelle dans le vote. Mais il a été ratifié après un accord clairement exprimé. Mais ensuite, l'Europe est repartie un petit peu sur les mêmes erreurs méthodologiques que précédemment, c'est-à-dire qu'elle a recommencé ensuite à progresser, à se faire, à s'élargir, à se transformer en ignorant les aspirations des peuples. Et aujourd'hui, on en a le résultat que Philippe Séguin avait annoncé d'une certaine manière, c'est-à-dire le populisme.
Et donc aussi cette critique de la technostructure et d'une organisation qui est devenue fort peu démocratique, en tout cas dans le sens classique du terme.
Oui, c'était surtout ça d'ailleurs. Il ne reprochait pas la technostructure d'être une technostructure. Il était lui-même un ancien haut fonctionnaire et il a toujours défendu l'État, les hauts fonctionnaires, les technocrates avec beaucoup de ferveur et considérait qu'il devait avoir une autorité politique au-dessus d'eux, ce qui est le cas, quoi qu'on en dise, en France, dès lors que l'autorité politique veut bien assumer ses responsabilités. Mais ce qui n'était pas le cas à ses yeux, en tout cas à l'époque, avec le système de la Commission européenne, où il considérait que c'était les techniciens qui avaient le pouvoir et non les politiques. Et pour lui, c'était quelque chose de tout à fait répréhensible, parce que, tout simplement, il considérait que ça ne pouvait pas tenir et qu'un jour ou l'autre, les sociétés se rebelleraient.
Idée, la parole à ceux qui pensent le monde. Pierre-Edouard Deldic.
Vous écoutez RFI, le magazine Idée, et singulièrement Arnaud Tessier, avec lequel nous parlons de Philippe Séguin, dont il a écrit une biographie. Vous avez connu Arnaud Tessier, Philippe Séguin, vous avez travaillé avec lui. Dites-moi, quel caractère ?
Oui, il avait un caractère extrêmement tumultueux. Surtout, il s'emportait avec énormément de force, très vite. Ça montait la pression très vite. Comme souvent, d'ailleurs, les gens un peu tempétueux, ça retombait tout aussi vite. Mais je crois que c'était un homme, surtout... Enfin, je l'ai pratiqué. J'étais son stagiaire de l'ENA, puis son collaborateur à l'Assemblée nationale. Et puis, je l'ai revu régulièrement par la suite jusqu'à sa mort. C'était un homme qui ne supportait pas d'avoir en face de lui des gens, pour reprendre une expression nietzschéenne de Nietzsche, qui clignote. C'est-à-dire, c'était un angoissé. Et donc, s'il avait en face de lui quelqu'un dont il sentait que sa pensée n'était pas ferme, que ses propos étaient incertains, ça l'angoissait encore plus, il se mettait en colère. Donc, ça faisait partie de ces hommes d'État qui ont certes mauvais caractère, mais qui surtout apprécient qu'on fasse preuve de caractère face à eux. Je crois qu'il n'était pas pire du point de vue du caractère, en fait, que beaucoup d'autres. Simplement, c'est souvent une question d'entourage et de relations humaines. Mais oui, il avait quand même un caractère difficile et je pense que ça faisait très peur à Jacques Chirac, qui le connaissait bien, ça faisait très peur à l'entourage de Jacques Chirac dirigeant du RPR, à l'état-major de l'Élysée, qui notamment en 1995, lorsque Jacques Chirac a été élu président de la République, qui a choisi Alain Juppé, ont redouté pendant les années qui ont suivi une alternative Séguin.
Mais ce qui est frappant avec Philippe Séguin, Arnaud Tessier, c'est qu'il était bon un homme de caractère d'évidence, un homme d'envergure d'évidence, mais qu'il était aussi très respectueux, trop peut-être. Il a hésité à franchir le Rubicon, à diviser sa famille, alors qu'il aurait pu peut-être aller plus loin et aller plus loin aussi dans une carrière, là je reviens à cette notion de destin, devenir président peut-être. Beaucoup le disent aujourd'hui, oui. Beaucoup le regrettent d'ailleurs.
Oui, oui, notamment beaucoup d'anciens séguinistes qui lui en veulent un peu, en veulent avec affection, de ne pas avoir franchi ce fameux Rubicon. Il a eu plusieurs fois l'occasion, 95, lorsque, après avoir fait élire largement par son propre concours Jacques Chirac, il lui était préféré Juppé. En 97, après la dissolution désastreuse qu'il avait essayé d'empêcher, il aurait pu finalement... il a pris la présidence du RPR, mais il ne l'a pas transformé pour en faire... son propre objet. Il aurait pu, en 2001, lorsqu'on a fait la très mauvaise manière de le faire battre son propre camp à l'élection municipale à Paris, il n'a jamais franchi le Rubicon et il a quitté la politique en 2002, au moins provisoirement, parce que simplement il ne voulait pas adhérer à l'UMP qui avait succédé au RPR et dont il considérait que c'était une formation politicienne de droite qui n'avait plus rien à voir avec la filiation gaulliste. Pourquoi n'a-t-il jamais franchi le Rubicon ? D'abord, j'ai envie de dire, il n'a peut-être pas eu d'autres occasions, parce qu'il est mort relativement jeune pour un homme politique, il est mort à 66 ans, donc sa carrière n'était peut-être pas terminée, et quand on voit aujourd'hui, enfin depuis quelques années, l'actualité, on se dit souvent que son heure aurait pu sonner plus d'une fois. Beaucoup de gens ont pensé à lui, dans des circonstances difficiles ces dernières années, et aujourd'hui encore, donc il aurait peut-être eu cette occasion, cette circonstance qui lui aurait permis de franchir le Rubicon. Et puis je crois qu'il y avait aussi un problème de loyauté. Il avait fait sa carrière au RPR, il l'avait fait sous les auspices de Jacques Chirac. C'était un homme qui envisageait difficilement de rompre comme ça. Et puis en outre, il n'avait pas cette aptitude qu'ont eu d'autres personnalités comme Charles Pasqua, par exemple, d'entraîner avec eux une troupe un peu structurée. C'était quelqu'un qui n'était pas véritablement un homme qui pouvait construire un camp. C'était un homme très individualiste, qui aimait bien s'appuyer sur quelques personnes qu'il aimait bien, avec qui il avait l'habitude de travailler. Mais ce n'était pas un homme capable de créer un parti, je ne crois pas. Donc, il aurait vraiment fallu, sur un mode gaullien, en quelque sorte, une rencontre entre ses idées, son caractère et les circonstances. Et le temps où les circonstances ne lui ont pas été données.
Arnaud Tessier, il faut rappeler, vous y faisiez référence il y a quelques minutes, en quoi Philippe Séguin pourrait être important aujourd'hui compte tenu du débat politique. On a parlé de l'Europe, on a parlé de ce gaullisme social. En quoi aurait-il des choses à nous dire aujourd'hui sur la société française ?
Eh bien, parce que tout simplement, c'est accompli ce qu'il avait annoncé en 1991, hein, donc il y a 30 ans, au moment où il était question de front républicain, d'abolir les frontières entre droite et gauche, au moment où le Front National risquait de percer, il avait dit cette histoire de front républicain, cette négation des réalités politiques, mettra Le Pen à 40%. Et il avait dit ça en 1991. Et ça s'est produit, ou à peu de choses près, en 2017. Parce qu'il pensait qu'à force que la droite et la gauche aient la même politique, la même vision de la société, la même conception de l'Europe, purement financière et économiste, il considérait qu'on finirait par évider la politique en son centre et que ça ferait monter les extrêmes. Or, lui, c'était l'homme qui pouvait, d'une certaine manière, répondre aux inquiétudes et aux attentes de la société française, sans aller aux extrêmes, puisque c'était un ennemi forcené des extrêmes, il est un adversaire résolu du Front National, mais tout simplement parce qu'il était gaulliste. Dire aujourd'hui, on invoque beaucoup De Gaulle, mais De Gaulle, c'est pas seulement un homme, c'est aussi une certaine façon de concevoir la politique, de concevoir la société. Le gaullisme social, ce n'est pas un gaullisme de gauche, le gaullisme social, c'est le gaullisme tout court. C'est les réformes de 1945, c'est tout ce que De Gaulle a construit entre 1945 et 1969. C'est l'idée que la France, c'est à la fois la République et la démocratie.
C'était le fameux discours d'Alger de De Gaulle en 1944. Nous avons choisi la démocratie et la République, c'est-à-dire la démocratie classique, mais aussi une certaine conception de la chose publique avec un État fort, et un État social fort. Et je crois que c'était ça que portait Philippe Séguin. Aujourd'hui, on a un peu oublié l'État quand on ne le critique pas. Alors évidemment, quand il y a une crise sanitaire, ça se calme un petit peu, mais ça ne tarde pas à revenir. Et la dimension sociale de l'État, on l'avait un petit peu oublié. Là aussi, ça tente à revenir. Mais on voit bien que c'était véritablement l'axe que Philippe Séguin avait dessiné, qui est un axe gaullien.
Mais ce qui est frappant en quelques secondes, Arnaud Tessier, je m'en excuse, c'est que vous écrivez « Philippe Séguin a identifié publiquement son destin politique à une lutte contre un processus de destruction de l'héritage gaulliste, a commencé dans son propre camp ».
Oui, bien sûr, c'est ce qu'il a appelé la dégaullisation du RPR, c'est-à-dire la transformation de ce qui était un rassemblement qui transcendait le clivage gauche-droite sans le faire disparaître. Était inévitable pour lui. Mais par contre, il fallait le transcender. Et la disparition de cette dimension de la politique au profit de quelque chose qui est devenu une sorte d'hypercentrisme, mais pas au sens du centrisme politique qui a une existence historique, une sorte d'hypercentrisme par évitement, une sorte d'évacuation de la politique et du politique. Et c'était ça qu'il avait identifié, dont il considérait que ça réveillerait toutes sortes de démons, parce que les Français sont un peuple très politique et n'aiment pas être privés de la politique, de la vraie politique. Et donc, c'était pas un nostalgique. Et d'ailleurs, je dirais que son approche, plus encore que gaulliste, était gaullienne. C'était une certaine conception du bien public et qui, encore une fois, passe par le fait qu'on est une démocratie libérale, mais une démocratie libérale qui est adossée à un État fort et respecté, et qui est porté par un contrat social, qui était le contrat social de 1945, à réformer, à transformer, mais surtout à ne pas abandonner.
Ouais. Il a écrit ses mémoires en 2003, c'était l'itinéraire dans la France, d'en bas, d'en haut et d'ailleurs, un livre qui est toujours à lire et est intéressant, et une biographie de Napoléon III qui fait autorité.
Oui, c'est un livre, d'abord il en est très fier, parce qu'il s'est très bien vendu, alors qu'il en était l'auteur authentique, ce qui est toujours gratifiant pour un homme politique. Et puis, il en était très fier parce que c'était une période qu'il avait travaillé étudiant avec ses maîtres, qu'il aimait beaucoup, notamment de la faculté d'Aix-en-Provence. Et puis parce que le personnage de Napoléon III l'intéressait à raison, justement, de ce mélange d'autorité et d'esprit social et de liberté économique aussi, jusqu'à un certain point. Il trouvait que c'était un esprit original qui méritait d'être réhabilité, même s'il avait fait des erreurs. Et par certains côtés, évidemment, sa biographie tournait un peu à l'autoportrait, parce qu'il considérait que c'était un discours qui avait été peut-être pas toujours très bien compris, ni à l'époque, ni par la suite. Donc c'était un homme qui aimait beaucoup l'histoire, et en ce sens-là, il était très gaullien et gaulliste, c'est-à-dire qu'il considérait que le réel, la vie politique de tous les jours, c'était de l'histoire en action, et qu'on ne pouvait rien bâtir sans être conscient de ce qui s'était fait, de l'élan qui avait précédé.
Merci Arnaud Tessier, on n'a pas eu le temps de parler de la passion de Philippe Séguin pour le foot, mais il faut lire votre livre pour bien la mesurer, votre biographie de Philippe Séguin, donc, qui est réédité en poche chez Perrin dans la collection Tempus. Merci Arnaud Tessier.
Merci.
Idée réalisée par Steven Nestley, vous pouvez retrouver ce magazine, le podcaster sur le site de la radio, www.rfi.fr ou sur votre moteur de recherche préféré et vous y abonner. Bien entendu, je vous retrouve samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. RFI.